Radio Okapi.
Initialement prévue le 28 février dernier, la réunion conjointe des ministres des Affaires étrangères de la SADC et de l'EAC s'ouvre ce lundi à Harare au Zimbabwe. Et c'est dans le cadre de la mise en œuvre des décisions prises lors du sommet conjoint SADC-EAC tenu à Dar es Salaam en Tanzanie. En dépit de l'appel au cessez-le-feu lancé par le médiateur et président angolais João Lourenço, le 1-23 AFC continue de progresser sur l'axe Masisi-Walikale au Nord-Kivu, alors que l'armée et les Wazalendo tentent de les stopper à l'aide de l'aviation militaire. Cyprien Moussimar est l'invité de ce journal. Il est le directeur général de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain ANSER. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. Au micro, Noëlla Luzitu Kabambi. Ouverture ce lundi à Harare au Zimbabwe de la réunion conjointe des ministres des Affaires étrangères de la Communauté de développement de l'Afrique australe SADC et de la Communauté de l'Afrique de l'Est EAC. Initialement prévue le 28 février dernier, cette rencontre reprogrammée aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des décisions prises lors du sommet conjoint SADC-EAC tenu à Dar es Salaam en Tanzanie. Les enjeux de cette rencontre avec vous, Stanley Diomi.
Cette rencontre revêt une importance capitale dans la recherche d'une solution durable à la crise sécuritaire qui ravage l'est de la République démocratique du Congo. Les ministres des Affaires étrangères des deux organisations ont pour mission d'examiner le rapport de la réunion conjointe des chefs des forces de défense qui plaide pour un cessez-le-feu immédiat et la cessation des hostilités dans l'est de la RDC. Il s'agit aussi d'établir un mécanisme de coordination technique chargé de surveiller la mise en œuvre de décisions prises par les chefs d'État. Parmi les priorités figurent l'élaboration d'une feuille de route détaillée incluant des mesures à court, moyen et à long terme, ainsi que les modalités de financement de l'intervention régionale. Ce sommet ministériel intervient également à la veille de l'entame des négociations directes entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 sous l'impulsion du président angolais João Lourenço. Les conclusions de cette réunion pourront déboucher sur des actions concrètes pour alléger les souffrances des populations affectées par le conflit. L'enjeu est de taille dans tous les efforts consentis pour instaurer une paix durable dans l'est de la RDC et renforcer la coopération régionale pour éviter une nouvelle escalade des violences.
La délégation de la RDC compte se rendre demain mardi à Luanda en Angola pour répondre à une initiative du médiateur angolais João Lourenço tendant à relancer le processus de paix violé et saboté par Kigali et ses supplétifs du 1-23 AFC. C'est ce que dit un communiqué officiel relayé par l'agence congolaise de presse ACP hier dimanche. Jusque-là, la composition de la délégation et ses missions ne sont pas encore connues officiellement. Alain Irung.
Mambusita Sumbu, l'un des conseillers du président Félix Tshisekedi, a remis un message de la RDC au médiateur angolais dont le contenu n'était pas divulgué. En ce qui le concerne, la RDC a toujours répondu positivement à toutes les initiatives de médiation régionale ou sous-régionale, indique le communiqué officiel relayé par l'agence congolaise de presse. Par ailleurs, la situation sécuritaire et humanitaire dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, a été au menu des échanges samedi à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa entre le président Félix Tshisekedi et une délégation de la société civile française selon la présidence congolaise. C'est une mission de mobilisation pour montrer que la société civile française est non seulement touchée par la situation humanitaire dans les deux provinces du Kivu, mais qu'elle est aussi prête à se mobilisé aux côtés du peuple congolais, a déclaré Mathias Léridon, chef de la délégation cité par la source.
Et s'agissant des éventuelles négociations directes entre le gouvernement de la RDC et le M23, Denis Mukwege donne son point de vue. Le prix Nobel de la paix 2018 recommande l'organisation préalable d'une conférence internationale pour la paix en RDC qui aurait pour objectif de revitaliser l'accord cadre d'Addis Abeba et d'élaborer une feuille de route concertée définissant des actions concrètes au niveau national, régional et international. Dialoguer sous la menace des armes reviendrait à institutionnaliser la loi du plus fort et à conférer une légitimité à l'agression et à l'occupation illégale, affirme Denis Mukwege. Le prix Nobel de la paix congolais recommande aussi l'accentuation des pressions internationales pour veiller à faire respecter des prescrits de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il le dit dans un message partagé ce lundi sur ses différentes plateformes numériques. Écoutez Denis Mukwege dans cet extrait proposé par Blaise Makassi.
Les efforts à déployer pour parvenir à une solution durable à la grave crise que traverse la République démocratique du Congo devront également avoir une forte dimension internationale. Toute tentative de réduire les conflits en cours dans l'est de la République démocratique du Congo à un conflit interne en optant pour des négociations directes du gouvernement congolais avec le M23 constituerait une erreur de diagnostic majeure. Une telle approche menée en l'absence d'une conférence internationale pour la paix pourrait s'apparenter soit à une méconnaissance des réalités des dynamiques existantes sur le terrain, soit à une trahison de la patrie. C'est pourquoi nous appelons à la tenue d'une conférence internationale pour la paix en République démocratique du Congo. Cette conférence permettrait d'aboutir à une feuille de route concertée définissant des actions concrètes au niveau national, régional et international.
Toujours à propos de la crise dans l'est de la RDC, le Conseil de l'Union européenne se réunit aujourd'hui lundi pour évaluer une nouvelle fois la situation sécuritaire dans l'est du pays où le M23 mène la guerre avec le soutien du Rwanda. Des sources diplomatiques indiquent qu'à cette occasion, le Conseil de l'Union européenne pourrait annoncer des nouvelles sanctions individuelles contre des responsables rwandais impliqués dans la crise de l'est de la RDC. La situation demeure tendue sur l'axe Masisi-Walikale au Nord Kivu en dépit de l'appel au cessez-le-feu lancé par le médiateur de cette crise et président angolais João Lourenço. Le M23 AFC continue de progresser sur cet axe alors que l'armée et les Wazalendo tentent de les stopper à l'aide de l'aviation militaire. D'après plusieurs sources, l'armée aurait hier dimanche bombardé des positions du M23 à Kibua, une localité du groupement Ihana. Des sources parlent également de plusieurs dégâts humains enregistrés à l'hôpital général de Kibua. Plus de détails avec vous, Étienne Lissumbu.
Les affrontements armes lourdes ont été signalés tout le week-end entre les rebelles du M23 AFC et les Wazalendo dans cette zone, notamment Rosamambu, Kibwa et Mpofi, environ une cinquantaine de kilomètres du Walikale Centre sur l'axe Masisi-Walikale. Ce sont des localités des regroupements Iana et Utunda. Diverses sources affirment que, dimanche vers 14h, l'aviation de l'armée est intervenue et a bombardé les positions des rebelles à Kibwa. Cependant, ajoutent nos sources, l'hôpital général de Kibwa, dans la zone de santé du même nom, a été touché. Difficile pour l'instant d'obtenir des précisions quant aux dégâts, mais plusieurs sources parlent, entre autres, des victimes civiles parmi les personnels soignants. Toujours d'après nos sources, la population continue à se disperser, notamment vers Mutongo, Kaseke, Kayelenge, Kimua et Langira. Rappelons que l'avancée des rebelles sur cet axe qui mène tout droit vers le chef-lieu du territoire provoque la panique à Walikale et paralyse plusieurs activités.
Notez qu'en dépit du cessez-le-feu, nous l'avons dit, lancé par le médiateur dans le processus de l'Angola, des affrontements sont signalés et des renforcements de positions des parts et d'autre des belligérants. Sur l'axe Masisi-Walikale, des affrontements sont signalés à une cinquantaine de kilomètres du chef-lieu. Au sud Kivu, des affrontements ont été enregistrés dans la région de Kaziba, dans la plaine de la Ruzizi et sur l'axe Mwenga, bien qu'une accalmie s'observe depuis le week-end. Accalmie également sur l'axe Grand Nord depuis que les forces ougandaises se sont interposés, notamment à Kahiri et aussi à 15 km de Kipese dans le sud du territoire de Lubero. Les 619 candidats autodidactes de trois provinces éducationnelles touchés par la crise sécuritaire vont finalement passer leurs épreuves préliminaires de l'examen d'État 2025. L'annonce est faite à l'issue de la réunion du Conseil des ministres de vendredi 14 mars dernier. Ces candidats, dont ceux de la province éducationnelle Nord Kivu 1, font face aux défis, notamment de l'occupation des rebelles du M23. Bernard Danyangi.
La date du 25 mars pour ces examens préliminaires en faveur des élèves autodidactes du secondaire des provinces éducationnelles Nord Kivu 1 et du Sud Kivu 1 et 3 a été fixée à l'issue d'une réunion de concertation tenue du 10 au 12 mars dernier avec les inspecteurs provinciaux principaux en charge des provinces concernées, indique le compte rendu de la réunion du Conseil des ministres de vendredi dernier, rendu par le porte-parole du gouvernement. La crise sécuritaire consécutive à l'occupation d'une grande partie des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu a causé la fermeture de plusieurs écoles affectant des milliers d'enfants et des programmes scolaires. Prévu mardi 7 mars dernier sur toute l'étendue du territoire national, l'épreuve préliminaire de l'examen d'État 2025 pour les candidats autodidactes n'avait pas donc été organisée dans les dites provinces au détriment de 619 candidats. Si la date est fixée pour ce mardi 25 mars prochain, rien n'est rassuré jusqu'à présent de l'effectivité de ces programmes, indiquent les autorités scolaires au niveau de Goma. Pour ces derniers, en effet, jusqu'à présent, 9 jours avant la date annoncée, les mâles des examens ne sont pas encore arrivés. Et donc, ces derniers attendent l'arrivée de ces examens pour être sûrs.
La ville de Bukavu au sud Kivu n'a pas connu son ambiance habituelle ce lundi. Les maisons de commerce et les bureaux administratifs n'ont pas ouvert les portes. Le boulevard principal Patrice Emery Lumumba était presque désert, hormis quelques rares véhicules qui assuraient le transport en commun sur l'axe Place Niawera-Nguba, mais sans beaucoup de sollicitations. Les colonnes habituelles des gens qui marchent le long de la principale route étaient invisibles. Quelques écoles ont accueilli les élèves, même si d'autres encore se sont retrouvés en présence d'une poignée d'élèves seulement, sans enseignants. Le mouvement Force Vive de la ville de Bukavu avait lancé un message vendredi dernier appelant à une journée ville morte ce lundi dans le but de protester contre l'insécurité et les taxes exagérées dans la province. Au sud Kivu, toujours, les cours n'ont pas repris ce lundi dans toutes les écoles de la ville d'Uvira, malgré l'appel de la reprise lancée le week-end par la ministre provinciale de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Selon le président de l'association des parents et élèves d'Uvira, beaucoup de parents hésitent encore à envoyer leurs enfants à l'école à cause de la situation sécuritaire qui, selon eux, ne rassure pas encore. Ninda Bagoma promet de sensibiliser les parents à encourager leurs enfants à reprendre le chemin de l'école pour sauver cette année scolaire. Ninda Bagoma est joint au téléphone par Martial Kizabiamungo.
On avait lancé par le ministre provincial de l'EPST, en collaboration avec les provinces de l'IPP et toutes les parties prenantes, et nous parents, la représentativité des enseignants par les syndicats provinciaux, c'était toutes les parties prenantes. Évidemment, l'initiative était la reprise programmée pour la date d'aujourd'hui. Il y a une grande réticence à l'endroit des parents qui disent qu'ils ne voient pas que la sécurité de leurs enfants est bien. On est en train de voir si demain ça va aller mieux. Aujourd'hui, la rentrée scolaire n'a pas eu lieu. Il y a réticence du côté parent parce qu'ils disent que jusque-là, ils ne voient pas la sécurité. Étant donné que M23 à Kamanyula, ils peuvent avoir contourné même dans les hauts ou les moyens plateaux. C'est comme ça qu'ils doutent encore avec la sécurité de leurs enfants.
Au Kasaï oriental, des centaines de maisons résidentielles de Mbujimayi éclairées par la Société nationale d'électricité SNEL sont plongées dans le noir depuis bientôt 4 jours. Le directeur provincial de la SNEL parle d'une panne survenue au niveau de la centrale hydroélectrique de Toubi-Toubidi. Des explications avec Esther Ndalafina.
C'est depuis le vendredi dernier que des centaines de maisons résidentielles éclairées par la SNEL Mbujimayi sont plongées dans le noir. L'énergie électrique utilisée par la Société nationale d'électricité provient de la centrale hydroélectrique construite par la société Anui Congo d'investissement minier Sassim qui exploite le diamant à Boya dans le territoire de Niabi. Jean-Crispin Mukendi, directeur provincial de la SNEL, promet de se rendre sur place pour travailler avec les techniciens.
Le courant d'avoir créé la centrale de Toubi-Toubi, c'est pas une centrale. Lorsqu'il y a des perturbations au niveau de la centrale, ça impacte sur l'alimentation des SNEL. Là, je suis en route vers la centrale de Toubi-Toubi pour rencontrer les techniciens de Sassim et changer avec eux.
Signalons que la centrale hydroélectrique de Toubi-Toubi produit près de 7 MW d'énergie électrique. 3 ont été attribués à la SNEL selon les accords avec le gouvernement centrale. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
L'invité.
Au moins 22 projets de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER, sont en phase d'inauguration sur les 49 retenus en 5 ans à travers le pays. Invité de Radio Okapi, le directeur général de cet établissement public, Cyprien Moussimar, assure continuer de concrétiser la mission de promotion de l'accès à l'électricité dans un contexte où seul l'État congolais se présente comme sa source unique de financement. Il indique que d'ici à la fin de l'année 2025, l'ANSER prévoit de produire 30 MW d'énergie dans le Congo profond au profit d'environ 459 330 ménages. Cyprien Moussimar s'entretient avec Blaise Ndongamayanda.
Bonjour, monsieur le directeur général.
Bonjour.
Quel état des lieux dressez-vous de l'implémentation de vos projets d'électrification à travers le pays?
Actuellement, nous sommes en train d'exécuter 49 projets, ce qui fait un total de 53 depuis le début, depuis notre opérationnalisation en 2020 par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Et donc actuellement, 49 projets sont en cours d'exécution, 22 sont déjà finis en instance d'inauguration, en attente d'inauguration, et les autres sont en cours d'exécution. Nous espérons les terminer avant la fin de cette année, en attendant qu'un autre programme puisse être mis en place l'année prochaine.
ANSER a produit combien de kilowatts en 2024 et vous comptez en produire combien au cours de l'année en cours?
Ce programme ici qui a commencé l'année passée et qui se termine cette année, on atteindra 30 MW, 30 MW qui seront produits à la fin de l'année 2025.
Quelles sont vos difficultés tout au long de l'exécution de ces projets, monsieur le DG?
Les difficultés sont énormes parfois, surmontables et parfois pas. Les premières difficultés sont financières. Notre bailleur de fonds pour l'instant, le seul bailleur de fonds, c'est l'État congolais. Et vous le savez, l'État congolais actuellement est départagé entre la guerre et financer des infrastructures structurantes. Ce qui fait que, avant de financer l'électrification, l'État congolais doit d'abord sécuriser le pays. Ça, c'est le plus grand défi. L'autre défi, c'est l'état des routes. C'est l'état des routes qui n'est pas bon. On a difficile à accéder au point où nous devons électrifier. Et notre problème, c'est le problème des concessions pour les centrales solaires, essentiellement. Il faut avoir accès au terrain pour implanter des champs solaires, ce qui n'est généralement pas évident. Voilà, ça c'est quelques-unes des difficultés de façon ramassée.
Pouvons-nous savoir le niveau de partenariat entre la SNEL et l'ANSER?
Nous travaillons ensemble, nous sommes un établissement public. La SNEL est une entreprise commerciale qui vise les bénéfices, qui vise les lucres, nous non. Et dans certains endroits où nous pensons que ça peut être bénéfique à la SNEL et où nous, nous avons les moyens financiers pour pouvoir exécuter les travaux, nous le faisons. Nous l'avions fait ici, dans la banlieue de Kinshasa, en Djilibassé, nous l'avions fait en Batakiela. Nous sommes en train de le faire à Louvougni, Katogo, Tamaya, pour la sécurité, le projet à l'arrêt. Et donc, nous collaborons avec la SNEL, mais nous ne parlons pas en termes d'aide. C'est pas vraiment une aide, mais nous finançons les travaux. Le travail se finance, reste une propriété de l'État congolais, reste une propriété de l'ANSER, et que la SNEL exploite après qu'elle ait bénéficié du financement pour exécuter les travaux.
Quel est le coût annuel de votre société?
Ça aurait été un budget, si en tout cas de mon idéal, de mon point de vue, l'idéal aurait été d'avoir un budget assez important à la lumière de ce que a dit le DG dans son exposé. Par exemple, 1 milliard pour le cas de l'Afrique du Sud, 513 millions pour le cas du Sénégal. Nous, l'année dernière, nous n'avions eu que 52 millions. Dans la location budgétaire du gouvernement congolais, mais n'avions décaissé que 10 millions, non, que 13 millions, vers fin octobre. Vous aviez vu la planification, par exemple, sur deux ans, 2022-2025, on avait estimé 750 millions. Si on pouvait nous donner, vous étalez ça sur trois ans, les tiers de ce que nous avions planifié sur 750 millions, environ 250-300, ce serait un budget appréciable pour pouvoir électrifier le pays à un taux d'accès assez important.
Monsieur le directeur général, nous vous disons merci.
Merci beaucoup.
Merci à vous aussi qui avez bien voulu suivre ce journal sur Radio Okapi, un journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi et mis en onde par Debse Vita sous la coordination de Élisée Tchikota, tandis que la supervision était assurée par Martin Sebujangwe.